BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Au programme cette semaine, comment combattre les fake news. On sera avec Stanislas Mott, le PDG de Storyzy, entreprise spécialisée dans la brand safety et la détection de fake news. Alors Careva est devenu Orano cette semaine. On essaiera de connaître les secrets d'un rebranding réussi. On en parlera avec Eric Bonnet, directeur général adjoint d'Insign, et Marcel Botton, le fondateur de l'agence Nomen. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Frédéric Fougerat, c'est le directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne. Bonjour, Marie. Vous avez fait le tour de l'actu de cette semaine et ce qui a retenu votre attention, c'est cette initiative de Skittles, la marque de bonbons. C'est aux États-Unis, c'est pour le Super Bowl.
Exactement. Alors pour rappel, l'année dernière, le Super Bowl avait réuni 111 millions de téléspectateurs et le tarif moyen pour un spot de 30 secondes s'élève à 5 millions de dollars. L'objectif est donc énorme pour les marques, d'où cette initiative inédite pour la marque de bonbons Skittles. Le 4 février, jour du Super Bowl, seul un ado californien pourra visionner la publicité tournée spécialement par l'agence DDB New York, la pub la plus exclusive donc du Super Bowl selon la marque. Les internautes, eux, devront se contenter de voir les réactions de cet adolescent sur Facebook en live.
Donc tant mieux pour cet ado et tant pis pour les autres. Et puis la Marine nationale, cette fois c'est en France, propose une nouvelle campagne pour attirer les candidats.
Plus de 3500 marins vont être recrutés en 2018 et à cette occasion, la Marine nationale lance un spot en immersion dans un sous-marin ou à bord d'un hélicoptère, on s'y croirait presque. La campagne Ensemble, nous sommes parrains est orchestrée par l'agence Havas Paris et s'étale sur 3 ans.
Et puis une très bonne nouvelle encore pour le marché français de la pub en ligne.
Pour la première fois, le marché de la pub digitale a dépassé les 4 milliards d'euros, une progression de 12% en 2017 d'après l'observatoire de l'IPUB. Et c'est évidemment Google et Facebook qui en profitent le plus. Ils captent 92% de cette croissance. Leur part de marché dans la pub digitale atteint 78% contre 76% en 2016.
Frédéric, Google et Facebook sont-ils indéboulonnables pour la pub en ligne? C'est irrattrapable là le retard pour les médias?
Oui, c'est irrattrapable. Cela dit, la solution pour les médias en France, par exemple, c'est de s'allier pour éviter que cette part continue à monter. Mais en effet, je pense pas qu'en France, on arrivera un jour à avoir quelque chose qui contrebalance réellement Facebook.
Mais
et
des
Google.
Alliances, il y en a eu là récemment, ouais. Skyline, Gravity, ouais. Ça fonctionne pas?
Si, ça fonctionne. S'ils étaient pas là, ils seraient pas à 98%, ils seraient à 100%. Donc ce serait voilà.
Ce sera encore pire en fait.
Ce sera encore pire.
Merci Marie, merci Frédéric.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Stanislas Mott, le PDG de Storyzy. On dit Storyzy?
Storyzy.
Entreprise spécialisée dans la brand safety, la détection de fake news. C'est vrai que c'était un sujet avec Fred qu'on voulait aborder depuis un moment. Cette semaine, on a eu un faux trailer pour un film Friends, c'est pas la première fois en plus, aux États-Unis, qui a pris une ampleur incroyable sur Facebook. Tous les médias américains en ont parlé. En fait, il s'agissait d'un vieux montage vidéo, pas du tout de film en prévision, hein. Je vous détrompe tout de suite. Et comment est-ce que un truc comme ça peut marcher aussi vite, aussi fort? Comment est-ce que naît une fake news en fait?
Effectivement, on voit que cette semaine, une seule production, une seule vidéo, et 3 jours après, près d'une cinquantaine de millions de vues. Tout simplement, effectivement, par le partage des réseaux sociaux, et tu cibles les fans, ou tu cibles, effectivement, tous ceux qui suivent Friends, et dans ce cas-là, ils le partagent, même si c'est un fake. Et on voit nous-mêmes que les fake news sont grosso modo partageables à la hauteur de ce qu'on pourrait appeler un mainstream, une information mainstream. Donc, de l'ordre de 3 à 4, les 3 grosses informations, 3 à 4 grosses informations du jour. Un fake est facilement partageable dans ce cas-là.
Les fake news, c'est aussi quelque chose, dans le cas par exemple de Friends, qu'on a envie de voir, ou c'est des nouvelles dont on a parfois juste envie de...
On a envie d'y croire, en fait.
Qu'elles soient vraies, quoi. Ouais.
Alors, je pense que vous avez raison, Frédéric. Là, on parle effectivement probablement d'une fake news qui est, je dirais, gentille.
Gentille, oui.
Voilà. Si on se met effectivement dans le cadre du brand safety, effectivement, on pourrait appeler ça, on pourrait mettre ça presque dans la case ironique, gentille. Mais la plupart des fake news, des sites de fake news, s'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont volontairement trompeurs. Ils sont là pour tromper la personne. Alors on voit qu'il y a différentes façons de tromper la personne. On peut aussi bien être effectivement dans de la xénophobie, ou on peut être aussi bien... Mais là, dans le cas de Friends, effectivement, c'est quelque chose... On est plus dans le cadre du ludique.
Là, on est dans le genre...
Si on est dans le cadre du brand safety, de ce qui importe pour les annonceurs, c'est effectivement, et c'est nous ce que faisons, c'est plus d'un peu plus de 3000 sites. Et ces 3000 sites, effectivement, encore une fois, je le répète, sont volontairement trompeurs, xénophobes, extrémistes. Mmh. Et on est dans une toute autre catégorie que l'exemple de Friends cette semaine, qui est encore une fois probablement dans le ludique. Et qui là, du point de vue brand safety, non. Après, ce qui est exact, c'est que la plupart des gens qui font de la fake news, donc on le répète, c'est plus de 3000 sites et tous les jours, il y en a des nouveaux, c'est vrai qu'ils ont souvent la défense de dire, quand ils se font avoir, on l'a vu du point de vue politique, il y a deux semaines, avec la fausse interview Delphine Ernotte, Emmanuel Macron, la défense est toujours la même, c'était du deuxième degré, c'était du troisième, c'était ironique. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est toujours la défense, c'était ironique, alors qu'en fait, je le répète, pour nous, la fake news, c'est vraiment volontairement trompeur. Donc, si on rallie ça à la brand safety, c'est de se dire, un annonceur, est-ce qu'il a envie d'être associé à un site d'information qui est volontairement trompeur? À la différence de médias, ce que nous on appelle en anglais « trusted », qui font que, sitôt qu'ils ont une erreur, vous, BFM, CBNews, vous allez la corriger.
Oui.
Voilà. C'est la grande différence, et on voit même aux États-Unis, Trump, il pouvait dire, et la défense de CNN ou de grands networks aux États-Unis était, mais oui, mais c'était involontaire, et deux, nous l'avons corrigé dans la seconde.
Est-ce que ça peut avoir un impact très négatif, j'imagine, pour les marques? Quelles peuvent être les conséquences d'être associées comme ça à des fake news ou des sites malveillants, on va dire?
Effectivement, ils sont volontairement trompeurs. Alors, il y a deux types de sites de fake news, si on ramène ça aux annonceurs. Il y a ceux qui vont avoir un visuel, je dirais, très fort. On va parler de visuel, disons, de la Seconde Guerre mondiale, pour rester très, très poli. Et là, effectivement, l'impact visuel va être très fort. Là, on va plus être dans les catégories de fake news pour les annonceurs, je dirais, à la mode US, anglaise. Et effectivement, si on est dans des fake news France, il y aura probablement moins de visuels très, très forts. Mais effectivement, ce sera beaucoup plus sournois. Il y a effectivement en France, il y a une loi qui en ce moment est en discours, les textes seront beaucoup plus sournois. Si on parle de textes trompeurs, voire de textes extrémistes, pour être juste à la lisière de temps en temps, de ne pas tomber sous la loi française.
Mais l'annonceur, lui, il c'est quoi? Il craint d'être associé à ce mensonge et d'y prêter concours en quelque sorte. C'est quoi son c'est juste son image. C'est qu'est-ce qu'il risque là-dedans?
Effectivement, si on est dans le brand safety, on dirait, on parle en termes de valeur. Encore une fois, si c'est de l'image, est-ce qu'il a envie d'être associé à des images très fortes? Si on prendrait en France, on verrait par exemple la photo de Emmanuel Macron avec marqué traître dessus ou des termes très forts. Mm-hmm. Et donc là, on prend les gros annonceurs, il y en avait un peu plus de 600 à la fin de l'année qui étaient sur des sites de fake news. Est-ce que tu as envie d'être annoncé à un visuel de Macron traître, par exemple, et de l'expliquer si tu es une marque institutionnelle française?
Comment est-ce que vous luttez contre ça chez Storyzy? Vous avez une solution technique, c'est ça?
Alors, si on revient effectivement, Aurélie, à Friends, on voit bien que 3 jours et une cinquantaine de millions de vues, c'est trop tard. Mm. C'est trop tard pour l'annonceur. Donc effectivement, nous, on a développé depuis plus de 3 ans une solution qui est basée sur l'extraction des discours et qui est basée sur le contenu. Il faut avoir une stratégie, ici on est sur la fake news, qui existe, la fake news depuis des lurettes. On n'a rien inventé à la fake news. C'est juste qu'un président l'a rendu beaucoup plus, l'a bien, très bien marketé.
C'est ça.
C'est tout. Donc il faut s'attaquer au contenu et pas à l'audience. Donc effectivement, nous, on a une solution d'intelligence artificielle qui est basée sur le contenu. Et tous les jours, nous extractons 50 000 discours, pour être très rapide, que nous comparons des familles de sites trompeurs. Et grâce à ça, de façon automatisée, on peut dire à l'annonceur, à la brand, si oui ou non, ça lui va pour son brand safety ou ça ne lui convient pas. Et tout ça de façon totalement automatisée. On voit bien que manuellement, quand on traitait 50 000 citations par jour, même pour vous, qui êtes des médias très respectables, je pense que pour un humain, c'est difficile, c'est compliqué probablement.
Rapidement, Emmanuel Macron veut une loi pour lutter contre les fake news pendant les périodes électorales. Est-ce qu'il faut absolument une loi?
Alors, si j'étais un peu taquin...
Allez-y.
On a le droit de tout dire ici.
Allez-y.
Non, je dirais à Emmanuel Macron qu'effectivement, il y a une loi depuis le 1er janvier cette année, donc depuis 4 semaines environ, qui fait que s'il a dit que pour la France, la fake news était mauvaise, pour la marque France, bah, déjà peut-être il pourrait regarder en tant qu'annonceur, parce que Emmanuel Macron est l'un des plus gros annonceurs en France.
L'État français, vous voulez dire.
Exactement. Si effectivement, il participe à la production, au financement des sites de fake news en France. Et surtout qu'il la connaît bien, la loi, puisque c'est lui qui l'a rédigée il y a environ 2 ans, quand il était au ministère de l'Économie et des Finances. Donc je dirais que ce problème-là, qu'on soit de gauche ou de droite, de façon totalement apolitique, cette loi a déjà été votée. Donc elle ne prêterait pas à discussion. Comme aujourd'hui, on voit que depuis 4 semaines, on rentre là, effectivement, dans l'éditorial, et on touche à la liberté d'expression, qui est différente du brand safety. Chaque marque choisit en fonction de sa valeur, mais il ne va pas toucher à la liberté d'expression. Là, effectivement, sur la nouvelle loi de toucher à la liberté d'expression, c'est probablement quelque chose de beaucoup plus subjectif et probablement quelque chose de très sensible, surtout dans un pays comme la France, où effectivement, il y a déjà des lois. Je lui souhaite bon courage.
Merci beaucoup, Stanislas Motte. Je rappelle que vous êtes le PDG de Storyzy.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, on retrouve Joe Lapompe, notre chroniqueur masqué, Frédéric.
Joe, avec deux sujets, et le premier qui concerne une campagne Perrier qui a été pompée. Là, on peut pas dire que c'est pas de la pompe. Elle a eu tellement de prix, cette campagne, que...
C'est assez dur de croire qu'il s'agit d'une coïncidence totale, parce que c'est une des campagnes françaises d'affichage qui a été les plus multi-récompensées dans le monde dans les années 2000. Et elle représentait, alors ça se passait sur des t-shirts, et on voyait tous les motifs des t-shirts dont on avait l'impression qu'ils interagissaient avec la bouteille de Perrier qui était posée devant. Et il y a une marque néo-zélandaise là qui a fait exactement la même chose dans une campagne. Alors je sais pas s'ils ont pompé, ou alors peut-être les créatifs étaient même pas nés, parce que maintenant ça fait quand même déjà 18 ans, donc
c'est juste un manque de culture pub, en fait, c'est ça.
J'ai l'impression que c'est assez flagrant, oui.
Autre campagne, campagne touristique, l'une pour Haïti et l'autre pour la Namibie, c'est ça?
Oui, alors voilà, ce qui est assez amusant là, c'est que on a deux esprits créatifs, on va dire, parce qu'il s'agit pas d'agence de publicité classique, mais d'un créatif indépendant et d'un rappeur qui a fait une création, et ils ont tous les deux réagi au même moment, l'un en Namibie et l'autre aux États-Unis, aux propos injurieux de Trump envers les pays qui qualifiaient de trouara. Ouais. Et donc ils ont réagi collant cette phrase de trouara sur des images du pays en question, oui. Qui sont en complet contre-pied avec ça, puisque c'est des images paradisiaques, des images d'endroits où qui donnent vraiment envie d'y aller. Ouais.
Bon, eh bien.
Là, on n'est pas dans la pompe, mais dans l'inspiration commune.
Non, alors là, effectivement, on est dans la coïncidence complète, et c'est juste que ça prouve que parfois, ça arrive, oui.
Merci, Joe Lapompe, pour trouver évidemment toutes vos pompes sur votre blog et dans l'excellent magazine CB News.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le Zoom de la semaine autour du rebranding avec Éric Bonnet, directeur général adjoint d'InSign. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Marcel Botton, fondateur et directeur général délégué de l'agence Nomen. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette semaine, la branche d'Areva qui s'occupe de l'exploitation et du recyclage des déchets nucléaires a changé de nom pour se rebaptiser Orano. Et c'est donc InSign qui s'est occupé de ce rebranding. D'abord, qu'est-ce qui a motivé un changement de nom comme ça chez Areva?
Un changement de nom s'explique par un changement de projet d'entreprise. Et donc un changement de positionnement, donc un changement d'histoire. Et il fallait absolument, en effet, changer de nom, puisque New Areva ou Areva n'est plus. C'est autre chose.
Alors comment on arrête le choix d'Orano? Quel est le processus comme ça quand vous créez une nouvelle marque, une nouvelle identité?
Alors le processus, c'est un processus évidemment de définition de la plateforme de marque et de sens d'abord, qu'on a défini avec la stratégie de l'entreprise et aussi avec l'interne. Avec les équipes terrain, et donc on a d'abord défini en fait le projet de communication et la plateforme de marque avant tout. Après, il y a eu une phase de création de nom qu'on a exercé en méthode design thinking, c'est-à-dire qu'on a rassemblé différentes personnes au sein de la marque, mais aussi au sein de l'agence, digital, mobile, architecture, print, linguiste, pour répondre à cette problématique-là.
Et Marcel Botton, quand on invente un nom, on prend un risque de surtout quand il s'agit d'une entreprise internationale, de se trouver avec une insulte dans une langue à laquelle on n'avait pas pensé. Comment est-ce qu'on se prémunit contre ce genre de risque?
Alors c'est ce que dans notre jargon on appelle les contrôles linguistiques.
Ouais.
Effectivement, on vérifie, et certainement Éric Bonnet et l'agence Inside l'ont fait également, on vérifie dans les principaux pays concernés, et même au-delà,
ouais.
Les évocations du nom. Et par exemple, en ce qui nous concerne, à l'agence Nomen, on a 520 correspondants dans 100 pays, y compris des pays quand même difficiles comme la Libye. Et on vérifie, avant de lancer un nom de ce type, que ce nom n'est pas des évocations très négatives dans une de ces langues ou un de ces pays. On m'a suggéré, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est un client qui m'a suggéré ça, il m'a dit, vous devriez aussi ajouter, par exemple, le wesh wesh. Parce qu'il n'y a pas que les langues étrangères, il y a aussi, ouais, en France, plusieurs langues.
Pourquoi c'est
pas
vrai.
Pourquoi pas.
L'autre branche d'Areva, celle qui est reprise par EDF, a choisi de revenir à l'ancien nom d'Areva, d'une partie d'Areva, Framatome. C'est, Marcel Bouton, c'est rare, non, de faire un retour en arrière comme ça?
Effectivement, c'est rare. C'est moi qui me suis occupé du dossier, il se trouve. Donc, c'est moi-même qui avais créé Areva à l'époque et qui me suis occupé de ce dossier. Bon, c'est le choix de l'actionnaire de référence, qui est EDF, qui a préféré... ne pas créer un nouveau buzz autour d'un nouveau nom, mais revenir à un nom relativement classique, sans grande opération de lancement. D'ailleurs, ça a été beaucoup moins lancé que Orano. Donc, c'est une approche différente, mais ce sont bien deux sociétés différentes aujourd'hui, hein, clairement.
Absolument. Est-ce qu'il y a des tendances dans la création de noms, des choses que vous observez l'un et l'autre? Parce que, pour citer les derniers exemples que moi j'ai vus, on a eu GDF Suez qui est devenu Engie, on a eu SNCF, le TGV Ouigo, on a eu Eurotunnel, Getlink, et DCNS, Naval Group. Il y a des tendances qui ressortent comme ça? Éric Bonnet, par exemple.
Il peut y avoir des tendances de forme ou de fond, etc. Mais de toute façon, in fine, ça reste un son. In fine, on va rationaliser, on va chercher du sens. Et d'ailleurs, les salariés d'Orano sont très fiers du nom parce qu'ils se retrouvent dans Orano. Mais on pourrait faire le jeu dans 6 mois ou dans 1 an. En fait, on cherchera plus le sens du nom. On cherchera aussi le son et la sonorité. On peut demander dans la rue que veut dire Twitter. Je suis pas persuadé que nos ados savent exactement ce que veut dire Twitter.
Marcel Bouton, vous observez des tendances, vous?
Oui, il y a quand même quelque chose que j'évoque souvent, qui est l'orientation vers l'improbable. C'est-à-dire... Avant, on créait des noms qui ressemblaient aux noms qui existaient. Bon, aujourd'hui, on doit créer des noms qui sont aussi improbables en termes de lettres, de séquences de lettres. Alors, vous allez avoir des noms avec, par exemple, deux A qui se suivent, ou K, Z, ou... des séquences de lettres où nous on a créé par exemple View qui est V-I-2-O-H par exemple.
D'accord.
La raison c'est, enfin il y a plusieurs raisons, mais la première c'est qu'il faut frapper les esprits, donc il faut déranger un petit peu, sinon si on est trop lisse ça marque pas. Et la deuxième c'est le référencement aussi, c'est-à-dire que plus vous avez une orthographe inhabituelle et plus le mot est rare, plus le référencement sera précis.
D'accord. Bon.
Et puis il y a une raison aussi, juridique. C'est-à-dire que les noms signifiants sont...
Il y en a de moins en moins, en fait,
absolument.
Non?
Il y a 91 000 nouvelles marques par an qui sont déposées. Donc évidemment,
En France.
Sans renouvellement, juste des nouvelles créations de noms.
Des nouvelles créations.
Donc obligatoirement, il faut être aussi un peu original, et donc les noms signifiants sont aujourd'hui beaucoup plus compliqués à trouver.
Frédéric.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à la fin, on invente des noms qui soient imprononçables parce qu'il n'y aura plus rien de libre?
Oui, c'est pas nouveau, je veux dire... je sais pas, Peter Stuyvesant dans les cigarettes, on a le droit de citer les cigarettes quand même, parce qu'on parle de marque, ou Hoogarten, c'était des mots imprononçables.
Aujourd'hui, ils en jouent beaucoup d'ailleurs, Hoogarten.
Ça peut être un atout.
Ça peut être un atout, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est que ça peut devenir un moyen de se mettre en valeur.
Éric Bonnet, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas de créer comme ça une nouvelle marque sur un truc qui existait déjà, de remplacer comme ça une marque?
Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est avant tout le fond, ça c'est sûr. Et aussi d'avoir interrogé les salariés et l'interne et de voir vers quoi ils se projetaient. Pas vers le passé, vraiment vers la projection. Et la projection, en l'occurrence, des 4000 salariés qui ont répondu à l'enquête, la projection c'était Marie Curie. Et donc, le fondamental du nucléaire, l'uranium, et Musk. Donc, le patron de Tesla.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire?
La vision de l'avenir.
La
méthode agile, quelque chose qui révolutionne les choses et on réinvente quelque chose. Donc, il y avait en fait ces deux champs sémantiques chez les salariés. Et donc, c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les réactions des salariés est dithyrambique. Donc, évidemment... La première, on pense aux clients. Et d'ailleurs, quand on a des changements de nom, c'est est-ce qu'on va perdre du business, j'ai peur pour mes clients, etc. Non, la première cible, c'est l'interne.
Oui. Clairement.
Merci beaucoup à tous les deux. Éric Bonnet, directeur général adjoint d'Insign, et Marcel Botton, fondateur et directeur général délégué de l'agence Nomen.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Frédéric Fougera. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia depuis très peu de temps. Vous étiez auparavant chez Elior, vous êtes passé par 5 grands groupes et vous publiez Un manager au cœur de l'entreprise. C'est aux éditions Focus RH, et à l'intérieur de ce livre, vous posez finalement une question toute simple mais en fait assez fondamentale. Est-ce que la communication, c'est un vrai métier ?
C'est une question que je pose, c'est surtout pour apporter la réponse. C'est une question qui est souvent posée à beaucoup de mes homologues, à beaucoup de communicants, et ils sont nombreux, notamment en France. Et ça ne touche pas que la France, d'ailleurs. Et pour vraiment faire de la pédagogie et expliquer, rappeler que la communication, ce n'est pas une occupation, c'est un métier, c'est même un écosystème de métiers. Il y a nombreux métiers dans la communication, avec plein de compétences différentes. Tout le monde ne peut pas faire tous les métiers. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à bosser, on vous demandait d'avoir un bon rédactionnel, un bon relationnel, ça suffisait pour faire de la communication. C'est vrai que c'était peut-être un peu plus à la portée de chacun. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, il y a de l'artistique, il y a du juridique. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qu'on ne peut plus considérer la communication juste comme une petite occupation qu'on pourrait faire si on n'a rien d'autre à faire. C'est un métier, ce sont des vrais métiers.
Des vrais métiers au service de la stratégie d'entreprise ?
Au service de la stratégie de l'entreprise qui doit participer à sa construction et l'accompagner, mais au service de la notoriété, au service de la réputation, au service de la crise. La communication travaille de plus en plus en mode crise pour anticiper les crises ou les gérer si l'anticipation n'a pas suffi. Donc effectivement, ça couvre un spectre très large qui démarre par la stratégie mais qui après va très loin.
Et justement, aujourd'hui, on communique partout et tout le temps, notamment avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est facile de savoir à quel moment communiquer et à quel moment, juste, il faut apprendre à se taire aussi?
Alors, c'est une chose que je dis souvent, le bon communicant, c'est pas celui qui parle le plus ou le plus fort, c'est aussi celui qui sait se taire et qui surtout sait écouter. Et pour répondre plus précisément à votre question, on est aujourd'hui dans un monde qui est très communicant. Ça veut pas dire que tous les gens sont des communicants, mais en tout cas, tout le monde a une capacité et une possibilité de s'exprimer et donc de toucher, d'avoir un impact, de susciter une émotion. Et donc, effectivement, quand votre métier, c'est de communiquer, vous devez tenir compte de cette capacité globale où chacun de vos interlocuteurs, de vos parties prenantes, de vos clients peuvent communiquer, peuvent vous interpeller publiquement, peuvent vous lyncher. Il n'y a aucune marque, aucune entreprise n'est à l'abri d'un lynchage médiatique avec des proportions hors normes. Et donc c'est vrai que dans la gestion de la communication aujourd'hui, le temps et la façon de toucher les gens sont des points très importants.
On me dit de temps en temps que finalement la communication aujourd'hui en entreprise, elle marche sur deux jambes, l'externe et l'interne. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors non, je suis pas tellement d'accord. En fait, avant, il y avait une vraie distinction entre l'interne et l'externe. Je crois qu'il y a maintenant ces communications-là transpirent totalement. Il n'est pas possible d'abord de tenir deux discours. C'est aussi pour ça que j'imagine qu'il n'est pas possible. Je considère qu'il n'est pas possible d'avoir deux visions différentes de ces deux communications. Il n'y a plus qu'une seule communication. Tout transpire. Quand vous faites une campagne, quand vous faites un communiqué de presse, quand vous faites des annonces sur les réseaux sociaux, vous vous adressez aussi aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Mm-hmm. Quand vous faites une communication employeur pour essayer de recruter des talents et les faire venir chez vous, vous pouvez pas leur raconter une histoire que les gens de l'entreprise ne vivent pas. Enfin, ou alors sinon, vous allez tout d'un coup créer des difficultés.
Des grosses déceptions.
Donc voilà, aujourd'hui, les communications sont toutes les mêmes. Il y a des outils différents, il y a des façons différentes de parler, il y a peut-être des angles différents, mais l'information, le contenu qui est la base de la communication doit être le même. Et puis l'approche peut éventuellement évoluer en fonction des cibles, mais il n'y a pas deux communications différentes. Enfin, ceux qui tiennent ce discours, pour moi, sont complètement has-been.
Et quelles sont les qualités, selon vous, pour faire un bon dire-com, alors ?
Moi, je pense que la première qualité pour être un bon DIRCOM, ou un communicant de façon générale d'ailleurs, parce qu'il y a plein... Un DIRCOM, ça n'existe pas tout seul. Hein. On n'est pas, comme le dit souvent Philippe Salle, le président du groupe Foncia, la réussite, c'est pas un one-man show, c'est collectif et en communication encore plus. Donc il y a plein de gens dans une équipe de communication. Et je pense que la principale qualité, c'est le sens politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir sentir les choses, il faut savoir écouter, il faut savoir faire preuve d'empathie. et pour transmettre une émotion, transmettre une information, savoir comment la personne en face de vous va la recevoir, il faut peut-être déjà être capable de l'écouter, de voir à qui on a affaire. Et donc ce sens politique, cette empathie, pour moi, c'est une des qualités principales pour pouvoir faire de la communication et a fortiori diriger un service communication.
Merci beaucoup Frédéric Fougera. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été avec moi. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.